Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les époux Balkany devant le tribunal correctionnel de Paris ce lundi. Leur procès s'ouvre pour fraude fiscale notamment. Rappel des accusations dans un instant. Parole donnée également à leur avocat et à une association anticorruption.
Affichage et spot télévisé, la campagne officielle des européennes débute aujourd'hui. Dans ce journal, vous comprendrez comment le CSA calcule les temps de parole.
Nous exposerons également les questions qui se posent au sein de la CGT. Le syndicat tient son congrès annuel aujourd'hui. Son secrétaire général voudrait se tourner davantage vers les nouveaux métiers, les auto-entrepreneurs et les indépendants.
Que se passe-t-il au Cameroun ? Enlèvement, meurtre, la situation se dégrade, nous nous y pencherons.
Et puis nous irons en Pologne à la rencontre d'antiféministes, des femmes qui combattent autant le féminisme que l'Europe à 13 jours du scrutin européen. Après ce journal, Frédéric Saïs, dans son billet politique, s'intéressera à l'abstention gagnante a priori de ces élections le 26 mai prochain. Des villas, des paradis fiscaux et des millions d'euros. Devant le tribunal correctionnel de Paris, ce lundi s'ouvre le procès des époux Balkany, l'un des couples les plus célèbres de la vie politique française, lié depuis 40 ans à l'histoire de la droite dans les Hauts-de-Seine, au nord de Paris. Le maire Les Républicains de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et sa femme et première adjointe, Isabelle Balkany, sont poursuivis pour fraude fiscale et blanchiment. Les enquêteurs Antoine Marette ont été alertés il y a 6 ans.
C'est à partir des révélations de Didier Schuller en 2013 que les juges d'instruction débutent leur enquête. L'ancien ami du couple Balkany estime avoir été berné par le maire de Levallois qui ne le soutient pas lors des municipales à Clichy. Et il compte bien le lui faire payer quand il pousse la porte du juge Van Ruymbeek. Didier Schuller balance, Patrick Balkany aurait à sa disposition un palais à Marrakech, une résidence de luxe à Saint-Martin et l'usufruit d'une propriété à Giverny. Les juges d'instruction accusent aujourd'hui les Balkany de blanchiment à grande échelle entre 2007 et 2014. Ils auraient dissimulé au fisc des revenus et un patrimoine occulte à hauteur au minimum de 13 millions d'euros. En particulier leurs deux propriétés à Marrakech et Saint-Martin qui auraient été cachées derrière des montages sophistiqués entre Suisse, Liechtenstein, Singapour ou Panama, dans le souci de ne pas apparaître comme les véritables propriétaires. Ce procès dans lequel quatre autres personnes sont poursuivies, dont le fils Balkany, doit durer plus d'un mois, mais l'avocat d'Isabelle Balkany pourrait solliciter un report d'audience. L'adjointe au maire de Levallois a fait une tentative de suicide il y a 12 jours, juste avant, dans un long message sur Facebook, elle fustigeait une instruction exclusivement à charge, selon elle.
Isabelle Balkany, qui est toujours hospitalisée, son avocat s'exprime ce matin, regrettant les attaques sur les réseaux sociaux à l'encontre de sa cliente, maître Pierre-Olivier Sûr.
On ne lui reproche, d'un point de vue judiciaire, qu'une fraude fiscale. Et voilà que pour une fraude fiscale, il faut qu'elle tente de mettre fin à sa vie parce que c'est devenu insupportable. Insupportable sur tous les réseaux sociaux, les propos antisémites et orduriers. Elle était suffisamment riche dans sa vie pour vivre sans difficulté. Et les 40 années de politique aux côtés de Patrick Balkany, ça l'a plutôt appauvri qu'enrichi. C'est une femme qui, envers et contre tout, a toujours été solidaire et fidèle et amoureuse de son mari. Et c'est la raison pour laquelle elle va tout faire tout à l'heure pour être à l'audience.
Donc, ce n'est que de la fraude fiscale, dit l'avocat d'Isabelle Balkany. Comment se fait-il en tout cas que le couple ait traversé les décennies à la tête de la mairie de Levallois-Perret ? Voilà la question que pose ce matin l'association anticorruption Anticor et son président Jean-Christophe Picard.
Malgré les rapports, malgré les indices concordants, malgré les aveux même de Madame Balkany en 2014 et les aveux partiels de Monsieur Balkany en 2016, ils sont toujours en place, malgré le rapport calamiteux de la Cour des comptes sur la gestion de Levallois-Perret. Pourquoi est-ce que les électeurs revotent pour lui? Pourquoi est-ce que les conseillers municipaux acceptent de ne pas démissionner et donc de ne pas provoquer d'élections partielles? Et aujourd'hui, on a Patrick Balkany qui n'est pas encore condamné, qui a déjà annoncé qu'il allait se représenter et peut-être même qu'il va être réélu. Donc c'est ça qui est assez incroyable et assez emblématique d'une affaire de corruption hors norme. Et on a aujourd'hui quelqu'un qui déshonore la classe politique et qui est toujours là.
Patrick Balkany, un homme d'affaires depuis 1983. Enquête de France Culture à retrouver sur notre site franceculture.fr. La campagne des élections européennes commence ce lundi à 13 jours du scrutin. Spot télévisé, radiophonique, débat, tout sera soigneusement minuté. Les temps de parole sont fixés par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et ils sont bien différents de ceux d'une élection présidentielle, par exemple. Explication ce matin d'Antoine Geoffin.
Le temps de parole se divise en trois fractions. D'abord, il y a un forfait pour chacune des 34 listes candidates. Elles ont toutes 3 minutes d'antenne au moins. Ensuite, 2 heures d'émission sont réparties entre toutes les listes en fonction du nombre de députés, de sénateurs et d'eurodéputés qui les soutiennent. Ils avaient jusqu'au 8 mai pour indiquer leur choix aux différents bureaux. Plus une liste est soutenue par ses élus, plus elle a de temps de parole. Enfin, troisièmement, le CSA partage 1h30 d'émission en tenant compte des résultats des partis engagés aux précédentes élections européennes, présidentielles et législatives. Il s'appuie également sur les sondages d'opinion publiés entre le 24 avril et le 7 mai. Les trois fractions additionnées donnent le temps de parole final de chaque camp. En tête, la liste Renaissance portée par le parti présidentiel et Nathalie Loiseau, 55 minutes. 48 minutes accordées à Jordan Bardella qui mène le Rassemblement National. 38 minutes pour la liste Union de la droite et du centre portée par François-Xavier Bellamy. Manon Aubry de la France Insoumise obtient 18 minutes. Yannick Jadot d'Europe Écologie 14. Les listes des petits partis, mouvements, voire associations sont nettement en retrait. 3 minutes 58 pour les Patriotes de Florian Philippot. Le minimum 3 minutes 33 secondes, notamment pour Alliance Jaune et sa tête de liste Francis Lalanne. Idem pour Lutte Ouvrière, Ensemble pour le Frexit ou encore le Parti Pirate.
Je précise qu'au total, il y a 34 listes de 79 candidats chacune. L'ordre de passage des clips à la radio et à la télévision a lui été tiré au sort. Suite de nos matinales consacrées à ce scrutin, après ce journal, Manon Aubry de la France Insoumise puis Nicolas Dupont-Aignan seront dans le studio de France Culture. Les excuses du groupe Bayer, propriétaire de Monsanto. Après les révélations d'un fichage illégal de 200 personnalités en France, la firme allemande se dit prête à coopérer avec la justice française. Journalistes, scientifiques, personnalités politiques, tous ont été classés en fonction de leur position sur le glyphosate et sur les pesticides en général dans un fichier. Le géant de l'agrochimie estime toutefois qu'aucun élément n'indique pour le moment l'illégalité de ce fichier. Il charge un cabinet juridique extérieur d'enquêter sur l'affaire. Les pesticides et notamment donc le glyphosate au cœur des débats toujours en France. Cette semaine, des parlementaires doivent publier un rapport à ce propos. Ils estiment aujourd'hui qu'aucune étude ne prouve le caractère cancérogène du glyphosate. Il s'agit d'une contre-vérité, d'une énormité au niveau scientifique, réagissent déjà ce matin les associations et des ONG. En bref encore, notons que la réforme de la fonction publique arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale aujourd'hui lundi. Quand le gouvernement y voit un texte modernisant la fonction publique, les oppositions et les syndicats fustigent notamment l'élargissement du recours aux contractuels dans cette fonction publique. Et parmi les syndicats, les 9 syndicats mobilisés contre cette fonction publique, la CGT était dans les cortèges la semaine dernière. Elle ouvre aujourd'hui son congrès annuel à Dijon pour réélire à sa tête Philippe Martinez. Il est d'ailleurs le seul candidat. La CGT cherche un renouveau surtout depuis la contestation des Gilets jaunes, Annabelle Grelier.
Se définir comme syndicat de combat quand on n'affiche pas une victoire au tableau, c'est déjà douloureux. Mais se faire éclipser par un mouvement populaire sur la scène de la contestation sociale, c'est quand même très dur à avaler. Le mouvement des Gilets jaunes est le reflet de tous les déserts syndicaux de la CGT, estime Philippe Martinez, reconnaissant que son syndicat est aujourd'hui absent des petites et moyennes entreprises et très éloigné des nouveaux types de travailleurs qui se multiplient avec l'émergence des plateformes et peu impliqués avec les précaires et les privés d'emploi. La centrale aurait-elle du mal à capter la réalité sociale du nouveau monde du travail ? Sans aucun doute, affirme-t-il, certains militants sont réticents à intégrer les auto-entrepreneurs, les indépendants, quand d'autres voient encore ceux qui travaillent le dimanche comme des ennemis de la CGT. Pour ne pas continuer de perdre des adhérents, Philippe Martinez appelle à un changement de mentalité et propose aux militants de sortir les camionnettes, les camping-cars et d'aller au-devant des salariés dans les nouveaux bassins d'emploi en périphérie des villes. Mais face à un gouvernement Macron qui a réalisé une réforme du code du travail, de l'assurance chômage et prévoit une remise à plat des 42 régimes de retraite, la frange gauche du syndicat appelle plutôt à une ligne plus dure et radicale, lutte des classes et anticapitaliste, comme si le vent révolutionnaire des Gilets jaunes soufflait déjà un peu dans les voiles de la CGT.
Plus de 400 postes supprimés chez Air France. La direction présentera ce matin un nouveau plan de départ volontaire. Plan qui doit concerner en majorité les personnels au sol basés en région. Air France se justifie en évoquant la très mauvaise santé de ses vols intérieurs qui subissent une concurrence accrue.
8h09 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Y aura-t-il des tribunaux spécifiques en Syrie pour juger les djihadistes étrangers?
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le préconisait en tout cas ce week-end dans une interview aux Parisiens. Ce serait une sorte de tribunal, comme cela a pu exister au Rwanda ou au Kosovo. Pour l'avocat William Bourdon, qui défend notamment les épouses de djihadistes, ces mécanismes ad hoc affaiblissent la dimension universelle de la justice internationale. Il s'explique.
Il y a deux réserves qui doivent être faites. La première, c'est que ça ne peut pas être complètement satisfaisant de dupliquer indéfiniment des tribunaux taillés sur mesure quand ils sont l'expression de l'absence de volonté politique et du refus des États d'assumer leurs responsabilités. Ce qui fonde la justice internationale, c'est cette idée que ce sont des crimes qui offensent toute l'humanité et qu'il est donc cohérent que les États délèguent à une forme de justice internationale, la mission de juger ces suspects, surtout quand les pays concernés, je parle ici de la Syrie et de l'Irak, ne sont pas en mesure de le faire ou le font à l'envers de tous nos principes. Et puis deuxième commentaire, qu'est-ce qu'on va dire aux victimes des crimes commis par Bachar el-Assad? Je crois maintenant plus de 400 000 morts civils. Eux aussi attendent un signe de la communauté internationale pour que l'impunité de Bachar el-Assad cède. Or, non seulement il ne cède pas, mais il est conforté et consolidé par les choix désastreux qui ont été faits. Donc, on voit bien que tout ça peut faire des ondes de choc qui feraient que le remède pourrait être pire que le mal.
Maître William Bourdon, interrogé pour France Culture par Marie-Pierre Véroux. Dans l'actualité de ce lundi matin, également cette attaque armée au Burkina Faso. 6 personnes ont été tuées hier pendant la messe devant une église catholique dans le nord du pays. Cette attaque survient 2 jours après la libération de 4 otages par les forces spéciales françaises, là aussi, dans le nord du Burkina Faso. Un conflit armé grandissant, c'est également le cas au Cameroun, dans la partie anglophone du pays, qui représente 20% du territoire. Des séparatistes militent pour la création d'un État indépendant. Ils s'opposent aux forces armées camerounaises. À ce propos, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui sa première réunion. Il sera question de la situation humanitaire sur place. Situation très préoccupante, Valérie Crovin.
Bâtiments incendiés, enlèvements de collégiens, meurtres, disparitions. La situation dans le nord-ouest du Cameroun ne cesse de se détériorer depuis le mois de septembre dernier. Les forces de sécurité camerounaises, déployées en nombre, s'opposent aux séparatistes anglophones qui se sont radicalisés. Interrogé par nos confrères de RFI, le révérend Mboui décrit le quotidien dans le diocèse de Koumbo.
On a les gens qui brûlent des maisons, les gens qui sont tués et les gens qui sont kidnappés. Depuis 4 derniers mois, on a dû fermer certaines paroisses. On a dû même supprimer toutes les écoles dans le diocèse de Koumbo. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre les gens.
Depuis sa réélection en octobre dernier, le président du Cameroun, Paul Biya, a préféré la manière forte au dialogue pour venir à bout de ce conflit qui dure depuis 20 mois. Seules des pressions internationales pourraient amener le gouvernement et les séparatistes à se mettre autour d'une même table, estiment les observateurs qui militent pour l'ouverture de pourparlers. Les combats que se livrent les deux camps ont déjà fait près de 2000 morts et 530 000 déplacés.
Viktor Orban à la Maison-Blanche aujourd'hui. Le Premier ministre national conservateur hongrois sera reçu par Donald Trump. Les deux hommes s'apprécient. En s'affichant ainsi aux côtés du président américain, Viktor Orban pourrait en tirer un bénéfice important à 13 jours des européennes. Les européennes qui nous emmènent ce matin en Pologne. L'égalité femmes-hommes y est au cœur de la campagne en ce moment. Féministes face aux nationalistes, des femmes nationalistes ont d'ailleurs tenu hier leur premier congrès à Varsovie. Notre envoyé spécial Cécile de Kervas d'où y était.
80 femmes se sont réunies à l'heure de la messe dans l'enceinte du Parlement polonais pour une conférence organisée par le mouvement national, la droite extrême polonaise. L'un des chefs du parti, député à l'Assemblée, avait demandé à Edita de faire entendre pour la première fois la voix de ces femmes conservatrices.
Forbid abortion.
Nous sommes contre l'avortement, pour la protection du mariage, parce qu'il y a trop de divorces, contre la profanation publique de notre foi catholique. Et nous voulons élever nos enfants dans l'idée que Dieu, la mère patrie et l'honneur sont des valeurs essentielles.
Parmi les intervenantes, les associations d'anciens combattants côtoient les pro-allaitements, les universitaires, la nouvelle garde féminisée de la droite radicale, mais aussi des Polonaises qui ne se sentent pas féministes, comme Jagna, qui dirige un jardin d'enfants à Cracovie.
Je pense que la loi est OK et l'égalité existe, mais la féministe en Pologne, elle pense que c'est un combat entre hommes
les femmes. En Pologne, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est plus réduit que la moyenne européenne. Mais ce n'est pas le cas des questions de temps partagé ou d'accès à des postes à responsabilité. Et alors, s'insurge la poétesse Marta Sibińska, professeure de littérature à l'Université de Varsovie.
L'Europe est contre les femmes comme nous. Les femmes traditionnelles, subtiles, délicates. Mon impression est telle que le Parlement européen s'occupe beaucoup, par exemple, le mariage de personnes homosexuelles et n'accepte pas qu'un modèle traditionnel de la famille polonaise soit populaire, connu et accepté.
De quoi expliquer la présence de nombreuses femmes de ce congrès à la manifestation anti-européenne de Varsovie le 9 mai dernier.
C'est un reportage de Cécile de Kervazdoué à Varsovie. Cette semaine, par ailleurs, sachez-le, un Stade Europe continue. C'est notre rendez-vous multimédia et interactif sur les élections européennes vues par les jeunes. Troisième thème donc cette semaine, l'égalité. Réactions et commentaires sur le compte Instagram de France Culture et notre profil Facebook. Le temps de ce lundi en France, calme et ensoleillé, mais encore frais ce matin avec 11 degrés à Nancy, 13 à Lille, Paris et Lyon, 14 à Bordeaux, 18 à Perpignan.